studio.
Hors des murs.
Le studio, il est où?
Hors des murs.
Studio volant.
Qui vole un studio?
Vole un micro.
Radio Panique.
Studio hors des murs.
Studio volant.
Radio Panique.
Panique. Hors des murs.
Radio Panique sort des murs.
La voix sans frontières.
Acteurs et actrices des temps présents, ce front commun et inédit entre métallos de la métallo-wallonie et agriculteurs de la Phrygia qui a contaminé d'autres secteurs sociaux, culturels ou économiques comme les artistes, les allocataires sociaux, le monde académique ou le secteur associatif. Les politiques néolibérales portées alors par un gouvernement fédéral de la coalition et de leurs conséquences en termes de logique d'austérité et d'appauvrissement de toutes sortes et tient au cœur de la création des acteurs des temps présents. Elles sont toujours aujourd'hui. Depuis 2014, les acteurs, le premier des mouvements dites citoyens à avoir vu le jour en Belgique, a mené de nombreuses actions, parfois de façon tonitruante, mais le plus souvent de manière discrète. Les 6 marches qui ont traversé la Wallonie en avril 2014, en passant par l'occupation de Belspo, siège de la politique scientifique en décembre 2014, ou par l'ouverture volontairement éphémère de la quincaillerie des temps présents de juin 2015 à janvier 2016, ou encore par les réalisations de la fresque Réfléchissez sur les expulsions du chômage en 2015, les acteurs et les actrices ont montré une démonstration patiente que se sont passés de relais des grands médias.
Ces derniers mois, les acteurs et actrices des temps présents se sont investis dans l'ensemble des luttes sociales et politiques actuelles. Mouvement des sans-papiers, secret professionnel des assistants sociaux, Panama Papers, CETA, TTIP, lutte contre la pauvreté, services communautaires, etc. Un spectre d'actions très large et des interventions parfois transgressives, souvent désobéissantes, mais toujours caustiques et irrévérencieuses. Aujourd'hui, que le néolibéralisme semble lui-même être dépassé sur sa droite par une prédation économique et sociale plus intense et plus décomplexée encore, ainsi que par des programmes et des actes politiques normalisant la barbarisation accrue de nos sociétés, les actrices et les acteurs estiment que le temps est venu de faire pays dans un pays, c'est-à-dire de créer les conditions d'une mutualisation des territoires, de temps et de moyens menant à la création d'institutions autonomes locales, communes et reliées. Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous. C'était un texte de présentation sur ce que sont les acteurs des temps présents et nous sommes ce soir au DK, rue de Danemark, numéro 70B, voilà, ça en est clair. Et donc on est en compagnie de Tom Nice, salut Tom.
Salut.
Et de Céline DeVos, salut Céline.
Salut.
Et de Saïd et Louisie, avec qui nous animons d'habitude la voix des sans-papiers, la voix sans frontières. Salut Saïd.
Salut.
Alors donc voilà, on est au DK et peut-être que Tom, tu peux un peu nous présenter ce qu'est le lieu, quand il a ouvert, quels sont ses buts, etc. Mais Saïd a une petite question pour toi, je pense, par rapport à tout ça.
Non, c'est ça, on demande... notre ami Tom qui nous présente le local où on se trouve aujourd'hui. Comme chaque quatrième mardi du mois, on est dans un espace, on essaie vraiment de fréquenter des espaces. Aujourd'hui, on est dans les nouveaux locaux des acteurs. On voulait savoir comment vous êtes organisé dans ce local, bien sûr, et quels sont les objectifs derrière ce local-là?
Mais comme tu l'as dit dans l'introduction, il y a 3 ans, donc les actrices et les acteurs des temps présents étaient à la quincaillerie, où c'était un lieu qui était surtout focalisé sur la lutte contre les politiques d'austérité européennes. Mmh. Ici, peut-être que l'angle d'attaque a un peu changé. Disons que ici, il y a donc cette volonté de faire pays dans un pays, c'est-à-dire de ne plus négocier avec les politiques, mais de faire en sorte que ouais. les personnes, les quartiers, les collectifs prennent en main eux-mêmes, disons, la question politique. Nous sommes ici depuis février, ouais. mais une vraie préouverture, c'était le week-end passé, parce que voilà, il fallait des.
On va retourner sur la question de retour sur le week-end passé. On okay. voulait savoir vraiment l'organisation de local. Comment vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a des réunions pour le local? Pour on ne sait pas comment.
D'accord. Il y a beaucoup de choses évidemment. Il y a d'abord les travaux puisque il y a beaucoup de travaux à faire. Et ouais. Oui, il y a les assemblées ouvertes tous les mercredis à 18h30. Ouais. Il y a les différents groupes de travail, c'est-à-dire l'équipe chantier. Il y a le groupe programmation. Il y a tous les premiers samedis du mois les ateliers de réflexion pays okay. dans un pays qui réfléchissent sur différents aspects, notamment l'autogouvernement, enfin ouais. l'autogouvernance plutôt. Voilà, mais bon, voilà, c'est surtout un lieu où l'angle d'attaque, c'est donc d'expliquer que justice sociale, justice climatique et justice migratoire sont inextricablement liés et qu'on ne peut pas les traiter de façon séparée. Mais c'est aussi jamais oublier que c'est aussi un, ce n'est pas que de la lutte politique. Il y a aussi de la contre-culture. Il y a de possibilités d'exposition, de soirées de poésie, de concerts. Il y a aussi une volonté, évidemment, d'ouverture sur le quartier. En ce moment, il y a une donnerie à l'entrée, donc des vêtements, des jouets, des objets que où les gens peuvent se servir. Je pense que j'oublie beaucoup de choses, mais voilà.
Moi, j'avais une question un petit peu bête, parce que je me dis que peut-être bah, tout le monde ne connaît pas les actrices et les acteurs des temps présents de manière plus large, et peut-être de présenter un peu ce que vous avez fait, enfin rapidement, ce que vous avez fait dans le passé et dans le présent, du coup, ou alors au moins de voir où on peut retrouver plus d'informations sur vous.
Oui, alors. Moi, j'ai rejoint les acteurs quand ils étaient à la quincaillerie, donc il y a 3 ans. Donc, je ne suis pas un des membres historiques, mais je sais quand même que c'est à la base effectivement un front de lutte qui s'est rendu compte que et les chômeurs et les travailleurs précaires et les petits agriculteurs et les artistes partageaient une même galère. Et donc, il y avait une volonté de se mettre ensemble. Et pas seulement à Bruxelles, donc je veux dire, c'est quand même au niveau de la Belgique francophone. Il y a des actrices et des acteurs à La Louvière, à Liège, à Charleroi, à Namur. Et voilà, donc il y a eu des marches, il y a eu des actions ciblant le CPS, il y a eu des interventions, et ce qui, enfin, des interventions avec d'autres. D'autres associations de lutte ou avec d'autres collectifs d'artistes qui nous sont proches. Évidemment, comment on peut s'informer? Bien sûr, il y a il y a les réseaux sociaux, il y a un site internet aussi, acteursdestempsprésents.be. Voilà.
Le but étant de faire évidemment pays dans un pays, qui est la finalité, qui est ce terme qui est déjà revenu plusieurs fois depuis le début de l'émission. Peut-être qu'on peut essayer ensemble de dire de quoi il est question quand on parle de faire pays dans un pays. On a notamment sorti un manifeste des actrices et acteurs des temps présents et qui, je peux lire le début, le premier paragraphe, la première phrase étant « Les choses telles qu'elles vont nous disent la barbarie à venir ». On part de ce postulat-là Et donc le premier paragraphe commence comme ça. Nous vivons dans une société de plus en plus brutale et déshumanisante, soumise à une violence voulue comme telle, qui a pour but de diviser, de séparer et d'éliminer, d'imposer la domination sans partage des puissants. Nous vivons sur une planète dont le bouleversement climatique menace d'ores et déjà l'existence même de centaines de millions d'humains et de multiples autres espèces. Nous n'avons plus le choix, nous n'avons plus le temps de tergiverser. C'est comme ça que commence donc le manifeste. Et alors, effectivement, il y a, comme Tom, tu le rappelais, il y a ces ateliers du samedi qui sont plutôt des ateliers de réflexion sur comment faire pays dans un pays. Saïd, tu posais la question de ce que sont les acteurs, quelle est la jeunesse des acteurs. Il y a une part importante des acteurs, c'est quand même les marches qui se déroulent une ou deux fois par an, sur plusieurs jours à chaque fois, et qui, pour le rappeler, traversent, quand il s'agit de commun, des territoires dans lesquels il y a prédation ou accaparation d'un bien commun par le privé ou même une institution publique. Ainsi, on a traversé des territoires tels que Durbuy, le centre fermé à Liège, Votem. On a traversé le bois de Har, notamment, où il y avait justement tentative d'achat, d'accaparation d'un privé sur un sentier public, etc., etc. Et une deuxième marche qui était importante et qui est liée à toutes les activités de réflexion par la suite, c'était de traverser toutes les communes à plus haut taux de pauvreté en Belgique et de juste poser la question, si vous aviez à réparer quelque chose demain, par quoi commenceriez-vous ? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose,
Tom ? Oui, moi je pense qu'il y a trois axes en ce moment qui sont importants chez les actrices et les acteurs. C'est effectivement les marches. Là, les marches vont se concentrer sur les préalables, c'est-à-dire sur des grands projets nuisibles qui ne sont encore que au stade de projet, mais qui n'ont pas encore été réalisés. Je pense à la 5G, je pense à la maxi-prison de Haren, et il y en a d'autres. Et donc, nous travaillons là-dessus. Ça, c'est un axe. Un autre axe est quand même de fédérer les luttes ici au DECA même, de faire convergence de luttes, d'inviter des gens, de réfléchir ensemble. Et effectivement, alors, pays dans un pays, c'est vraiment une réflexion de comment mettre réellement en action concrètement ce désir d'autonomie. Je veux dire, tu parles de barbarie, la situation est grave. À mon avis, le capitalisme est arrivé dans sa troisième phase, qui est sa dernière. Et le capitalisme est par essence agressif, mais comme il sent que ça se corse pour lui et voilà, ça devient de plus en plus agressif, alors je pense qu'il y a que deux alternatives. Ou bien nous faisons pays dans un pays comme le font au Chiapas, les Zapatistes comme le font, essayent de le faire au Rojava, les Kurdes. Et comme il y a des initiatives un peu partout, aussi en Occident et ailleurs, je veux dire, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a des manifestations au Chili en ce moment, il y en a au Liban. C'est ou bien ça, faire pays dans un pays, selon les sensibilités des différents endroits et des différents protagonistes, géographiquement, historiquement, socialement. Et puis, ou alors, il y a l'autre alternative qui nous pend au nez, c'est la destruction de toute vie sur cette planète.
Ouais, comme il y a on voit dans les locaux, il y a un magasin de produits de lutte qui se vendent dans les locaux, et ça montre que les acteurs aujourd'hui, ils donnent vraiment un coup de pouce pour les initiatives qui sont là, les alternatives, on peut dire, à ce niveau-là. Et en même temps, un autre truc vraiment aujourd'hui, les acteurs, ils s'investissent de pousser ou de donner un coup de main au mouvement associatif. mouvement, surtout les sans-papiers, là, on voit une toute, il y a une, derrière une toute aide des acteurs, par exemple, au niveau de l'aide sur la bière sans-pape, l'initiative de la bière sans-pape, et voilà, et d'autres aides logistiques, comme on peut dire. Ça, c'est que pour ajouter un peu, parce que voilà, tout le monde voulait savoir que voilà, les acteurs, ils sont là, il y a un local, il y a pas mal de choses comme tu viens de les citer, cher Tom. On voulait savoir financièrement, comment vous êtes financé, surtout les locaux, au niveau de... voilà.
Ah ben, moi, je suis pas le comptable, hein. Non, je veux dire, comme on l'a dit, on a des partenariats syndicaux, ouais. Donc qui aident financièrement. On a des partenariats associatifs qui aident financièrement. Il y a la buvette, il y a, enfin voilà,
il y a les acteurs qui sont vraiment.
Et il y a justement dans le volet financier économique pays dans un pays, il y a toute une réflexion sur un financement commun, collectif, qui est doucement en train de se mettre en place.
Le but du pays dans le pays étant de rendre le pays que nous voulons faire plus attirant que le pays qui existe. Le pays que nous voulons faire étant celui qui réunit toutes les luttes. Donc il y a effectivement des réflexions sur le financement participatif et que ce pays-là supplante celui des grandes institutions et des grandes banques et des...
Bah, je veux dire, plus attractif que le capitalisme, nous le sommes de toute façon. Enfin, ceci dit, c'est pas très difficile. Mais non, je veux dire, oui, enfin, de rendre le monde humain et faire en sorte que les formes de vie qui y vivent subsistent et éradiquer les injustices, la pauvreté, évidemment. Évidemment, ça fait partie du but, mais je pense que à long terme, l'objectif n'est pas de rassembler toutes les luttes, mais c'est de faire en sorte que les luttes ne soient plus nécessaires. Et voilà.
Et donc le DK, pour inaugurer cette ère qui aboutira à la fin des luttes, a ouvert ses portes le vendredi 11 octobre dernier. Et donc l'ouverture des portes s'est tenue sur le 11, 12, 13. Il s'est passé tout un tas de trucs, notamment l'ouverture de cette donnerie dont Tom parlait tout à l'heure, qui est encore ici. Donc si vous cherchez des vêtements, des objets, je vois des petits chandeliers, des chemises, des t-shirts et tout ça. Si vous cherchez, c'est gratuit, c'est au 70 Beirut, Danemark. Mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi, Tom? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur le vendredi, notamment?
Oui, donc le vendredi, il y a eu... ça a commencé un peu plus tard. Donc il y a eu effectivement un apéro avec les partenaires, syndicaux. Il n'y a pas tous les syndicats qui soutiennent, hein. Il y en a que certains. Il y a aussi eu des prises de parole du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Il y a eu des prises de parole, évidemment, d'actrices et acteurs. Pendant tout le week-end, la boutique de lutte était accessible. D'ailleurs, aux heures d'ouverture, elle est accessible. J'ai envie de dire deux mots sur cette boutique de lutte.
Oui.
Sur les produits qu'on y trouve, il y a notamment du café de Zapatiste, donc qui soutient les luttes au Chiapas. Il y a des sacs du Rojava qui soutient donc les luttes des Kurdes syriens. Il y a le thé 1336 qui est un thé d'une usine autogérée au sud de la France qui a occupé cette usine pendant 1336 jours, d'où le nom, et maintenant elle est autogérée. Il y a de l'huile d'olive d'une coopérative grecque. Il y a des produits gastronomiques d'une coopérative autogérée du sud de l'Italie. Et avec ça, il y a aussi quelques livres et quelques disques, ou bien les livres des actrices et acteurs des temps présents, ou bien d'artistes qui se sont produits ici. Voilà.
Il y a aussi des petits sacs de groupes de femmes sans papier de Liège, c'est ça?
Attends. Tout à fait. Il y a aussi des petits objets cousus main par les femmes de la voix des sans papiers de Liège.
Ok.
Et donc le vendredi, le programme était assez court. Il y a donc eu cette ouverture conviviale avec des discussions suivies d'un concert de chansons françaises par Hank. Voilà.
Et le lendemain, le samedi, qu'est-ce qu'il y avait?
Alors, il y avait tellement de choses que c'est pour, pour moi, c'est un peu difficile de tout suivre. Mais je peux dire que sur les trois jours, il y a eu des assemblées ouvertes. Ouais. Il y a eu des rencontres, notamment avec des personnes qui ont lutté pour le T1336. Ouais. Il y a eu cette donnerie. Il y a eu... il y a les deux expos qui sont toujours visibles. Ouais. Donc, la pile et Zaventem opération de déportation. Il y a eu un atelier de Génération Climat qui a fait de la détournement de publicité. Il y a eu la projection problématique pour des raisons techniques d'un film de Pasolini. Il y a eu une soirée poésie le dimanche soir pour terminer. Il y a eu des animations pour enfants. Il y a eu une discussion autour du grand bois commun, qui est un bois qui se trouve près de Bruxelles et où l'objectif est qu'il soit racheté à un privé par une coopérative et qu'il soit re-rendu commun. J'en oublie, je suis certain.
Mais en général, vous avez essayé de toucher vraiment...
On a essayé de montrer dans ces trois jours un peu de tout ce à quoi touchent les actrices et les acteurs des temps présents et de montrer un peu aussi tout ce qui est possible dans ce lieu.
Bien sûr, la question migratoire était fort présente dans ces trois jours-là, dans les portes ouvertes de la quincaillerie. On va bien sûr interroger notre amie Céline après cette chanson, mais avant ça, vous rappelez directement avec Tom, avant qu'on quitte Tom, qu'il nous dise vraiment les dates de local, l'ouverture des dates, où on peut passer par exemple.
Vous pouvez passer pour nous rencontrer, pour boire un verre, mais je tiens quand même aussi à dire que ce n'est pas juste une buvette, mais c'est quand même une buvette qui est dédiée à l'échange, au partage, à la réflexion. Ouais. Collective autour des thématiques d'actualité, qu'elles soient artistiques ou qu'elles soient politiques ou sociales. Alors c'est ouvert, c'est officiel depuis ce week-end, les lundis de 17h à 21h30, les jeudis 17h-21h30 et les vendredis même 17h-21h30. Et c'est évidemment aussi ouvert quand il y a une autre activité ouverte au public, projection d'un film, débat, vernissage d'une exposition, récital de poésie, présentation d'un livre, etc., etc., etc.
Et
l'adresse, on le redit, c'est 70 B, rue du Danemark, à Saint-Gilles, proximité place Bethléem et tout près de la gare du Midi également.
Voilà, et alors John qui nous écoute me dit qu'effectivement nous réfléchissons à comment rendre ce pays que nous construisons plus attractif sur un plan économique et social, mais en matière de santé aussi. On n'a pas encore beaucoup avancé sur la matière de santé, donc infirmiers, infirmières, ramenez-vous.
Oui, merci John pour ton écoute. Bien sûr, il y a une chose, je voulais vraiment interroger, c'est pas interroger Tom, mais il y a une chose qui était vraiment absent dans les portes ouvertes, c'est notre camarade Paul qui était absent vraiment, c'est un grand absent dans les portes ouvertes. Oui, voilà.
Oui, Paul Hermon est un des fondateurs des actrices et des acteurs des temps présents. Et voilà, il ne pouvait pas être là pour des pensons à lui. Et il y a quelques jours, c'était son anniversaire. Donc, Paul, bon anniversaire.
Paul, bon anniversaire. Et en passant à la chanson. Merci.
I'm مشيت مشيت ما لقيت فايدة لرسمالي مشيت ما لقيت فايدة لرسمالي
Vous êtes avec nous sur les antennes de Radio Panique, La Voix sans frontières. C'est l'émission de chaque quatrième mardi du mois. Bien sûr, cette deuxième partie, on voulait vraiment partager avec vous et bien sûr Céline qui va partager avec nous ce qu'il a fait dans les portes ouvertes de Deka, ce qu'il a présenté. Et voilà. Bonsoir Céline.
Oui, bonsoir Saïd.
Alors Céline, on voulait savoir l'expo qui est autour des centres fermés. C'est quoi le message derrière? Qu'est-ce que vous voulez vraiment apporter à les espaces publics, à les espaces associatifs avec ce projet-là?
Alors oui, effectivement, j'ai implanté pour un petit mois. Oui. L'exposition, ça va être thème opération détention, oui, et déportation, tout à fait, qui est une initiative du groupe Getting the Voice Out et du collectif CRER, oui, le collectif contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation. Oui. Et en fait, c'est une exposition dont le contenu est majoritairement tiré du site internet gettingthevoiceout.org. Oui. Et donc les deux collectifs que j'ai cités tout à l'heure sont des groupes de militants, je dirais des groupes de gens énervés contre la politique migratoire meurtrière sur la question des frontières. J'ai proposé une exposition pour permettre une autre visibilité à tout ce contenu qui se trouve sur ce site internet et de donner une autre manière d'accéder à ces informations. Et donc cette exposition comprend un ensemble de textes, des témoignages sonores, des cartographies, des maquettes, et elle présente ce que c'est que les centres fermés en Belgique Il y en a de toute façon dans toute l'Europe, mais particulièrement ceux de Belgique. Et voilà, en gros.
Oui, ça veut dire l'idée de présenter ou de faire un expo qui montre une réalité des migrants dans les centres. Il y a un acte qui t'a fait toucher avant vraiment que tu viens proposer l'idée de faire cette expo. Ça veut dire, est-ce que tes visites au centre fermé, est-ce que tes communications avec les gens qui sont au centre fermé, qu'est-ce qui fait vraiment, Céline, qui t'a fait vraiment accrocher de dire ok, il faut que je fais une maquette pour montrer à les gens comment un centre fermé, comment, etc.
Ok, oui, c'est vrai que j'ai pas dit l'essentiel. Si j'ai décidé de mettre en forme une exposition sur cette question-là, c'est que je fais partie de ces gens fâchés contre les frontières. De fait, je fais partie des gens qui écrivent sur ce site, qui téléphonent aux détenus dans les centres fermés. Et ça m'a paru essentiel de rendre visible d'une autre manière. Et de faire connaître au grand public l'existence de ces centres fermés et de porter la voix parce que ça s'appelle bien pas Getting the Voice Out pour rien. C'est une manière de rendre visible les invisibilisés du système et donc tous ces gens qu'on enferme et qui hurlent et qui deviennent fous dans ces centres de manière complètement injustifiée et injuste. Et donc, de fait, mes visites là-bas, les nombreux coups de téléphone et les relations par la voix que j'entretiens avec ces personnes-là m'ont vraiment motivé à sortir, à ce qu'on communique de plus en plus et faire connaître ce qui s'y passe. et Getting the Voice Out a donc cette envie de porter la voix des détenus et aussi de soutenir leur combat à l'intérieur des centres, soutenir leur lutte et de leur donner certains conseils pour aussi résister à leur expulsion et de prendre leur témoignage lorsqu'ils veulent être entendus, d'avoir une portée médiatique sur ce qui leur arrive et de raconter ce qui se passe à l'intérieur des centres. C'est très résumé, hein, mais ouais. Sinon je pourrais en
parler. Et donc c'est comme ça que se présente l'expo qui a lieu, donc on le rappelle en ce moment, au DK, aux heures d'ouverture lundi, jeudi, samedi. C'est comme ça que se présente l'exposition que vous avez fait ensemble avec Getting the Voice Out alors?
Oui, de fait, j'ai pensé que c'était aussi intéressant de mettre des textes, je vais dire didactiques, enfin en tout cas quelque chose qui explique concrètement comment fonctionne un centre fermé, qui s'y trouve, donner un peu un éclairage sur le fonctionnement des politiques migratoires en Belgique et dans toute l'Europe, et des cas spécifiques du fonctionnement du centre fermé. Qui sous-tend aussi les actions préalables, c'est-à-dire l'arrestation massive, les rafles dans la ville,
la criminalisation
des sans-papiers, l'histoire aussi de la voix sans-papiers, VSP, qui est un groupe de sans-papiers dont Saïd va nous dire aussi un peu plus maintenant.
Oui, alors c'est ce qu'on voulait vraiment y arriver à l'actualité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, soit le mouvement des sans-papiers, soit le mouvement qui est autour des sans-papiers, des soutiens, etc., comme Getting the Voice, comme d'autres organisations qui luttent contre la politique migratoire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vraiment qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ça, la question de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce mouvement-là. Vous êtes proche du mouvement, vous êtes proche de sans-papiers, du mouvement de sans-papiers. Comme tu viens de le citer, il y a le VSP qui vient de déménager avant-hier le dimanche. Pas déménager, mais c'est le mot déménager, c'est un peu pour moi, c'est entre parenthèses. Ils étaient expulsés par le bâtiment de Molenbeek. Après, ils sont partis ailleurs dans un bâtiment à XL, c'est ça?
Oui. À côté des cages XL.
Ouais. C'était vraiment plus de la sixième fois dans les deux ans où la voix des sans-papes déménage, part d'un bâtiment à l'autre.
16e fois au moins.
C'est la 16e fois dans les
dans les deux ans.
Ouais, dans les deux ans ou plus. Alors c'était vraiment une réalité qu'on le voit nous dans le mouvement, que aujourd'hui les autorités arrive vraiment à arrêter la colère du mouvement des sans-papiers, puisque en 2015-2016 il y avait vraiment le mouvement qui tape fort dans les rues avec les manifestations, les rassemblements chaque lundi, chaque jeudi devant l'office des étrangers, et la manière pour arrêter ça, pour stopper cette colère et cette machin, il y a l'expulsion, comme vient de parler maintenant Céline. Il y a la manière d'expulser quelques porte-parole de cet mouvement, comme on a vu avec Ahmed des Afghans, avec Saud des Ebola, avec Malik de VSP. Et en même temps, il y a la deuxième truc, c'est que l'expulser de leur bâtiment pour qu'ils restent toujours dans le cadre de chercher un bâtiment, y aller à une autre, rester 3 mois, après chercher une autre. Et c'est ça. Alors, on est devenu aujourd'hui, on gère que l'urgence. L'urgence, c'est aujourd'hui, c'est le toit, d'avoir un toit, et c'est parmi les droits, tout simplement parce que pour faire une occupation, c'est clair pour nous, les sans-papiers, c'est pour faire la question dans les quartiers, être visible dans les quartiers, organiser les sans-papiers et en même temps mettre la pression après avec des actions, etc. Là, aujourd'hui, on n'est pas là dans ce niveau des actions, mais de temps en temps, il y a quelques actions, quelques rassemblements qui se font. Dernièrement, il y avait le groupe des travailleurs qui ont fait un rassemblement, même pas deux semaines, un rassemblement devant Axiris. Puis sur Axiris, dans la période des élections, ils ont annoncé qu'il y a moyen de faire des formations aux sans-papiers. Et là, voilà, il y a un groupe qui se mobilise pour avoir des formations, etc. C'est une porte, ça c'est pour leur analyse, c'est une porte d'avoir une formation, c'est une porte d'avoir un carte de séjour. Voilà, la question toujours, la réalité, elle est là. Il y a des expulsions, comme tu viens de le citer, Céline, et on voulait savoir, parce que vous êtes vraiment proche au truc des expulsions et aux détenus, est-ce que toujours il y a des expulsions qu'on ne l'écoute pas? C'est ça ce qu'on voulait.
Absolument tous les jours.
Tous les jours.
on n'en sait rien parce qu'on ne peut pas accéder à toutes les informations, mais c'est quasiment sûr qu'il y a des expulsions individuelles via les compagnies aériennes standards qu'on prend nous tous pour aller en vacances. Et il y en a tous les jours. Sera publié, je pense, bientôt, dès que un de nous va traduire le témoignage. Ouais. L'expulsion qui a eu lieu, par exemple, hier. Ouais. Expulsion d'une femme du Libéria.
Une femme de Libéria.
Voilà. Ouais, une expulsion particulièrement violente. Il y a eu, de par sa demande, un rassemblement à l'aéroport. Il y a quelques-uns du groupe qui allaient faire de l'information aux passagers. Ouais. C'est une des choses que le groupe Getting the Voice Out fait. Et c'était sa deuxième tentative d'expulsion. Elle a été ramenée au centre de Holzbeek. Holzbeek, qui est le sixième centre qui a été nouvellement inauguré. Qui est un centre fermé pour femmes. Donc elle est rentrée, elle a résisté à son expulsion. Du fait d'avoir fait un peu d'information passager, je pense que ça a un peu joué parce que quelqu'un est allé chercher le pilote. Et tout de même, en chemin pour retourner au centre, elle a eu le droit à quelques sales coups, quoi. Et et ce genre d'expulsion violente, il y en a très fréquemment. Et c'est quelque chose que j'ai pas dit par rapport à l'exposition. Effectivement, il y a il y a 9 témoignages sonores qui sont la plupart qu'on peut retrouver sur le site, qui témoignent très largement de plein de cas de violence policière à l'aéroport au moment de l'expulsion. Et les voix racontent ces violences. Oui, donc il y en a tous les jours concernant les expulsions individuelles. Il y a aussi les expulsions collectives, qui est un autre système sur lequel on a vraiment du mal à avoir une information claire et c'est très difficile de détecter à quel moment auront lieu les expulsions collectives via Frontex ou via une sorte d'organisation entre plusieurs États d'Europe. Parfois, il y a des vols organisé entre la Belgique, l'Allemagne, et c'est un peu comme un avion qui fait des petits stops comme ça, qui vont chercher une grappe, ils font le tour des centres fermés et hop, ils les répartissent là où il faut. Et là, c'est beaucoup plus difficile de savoir quand ça se passe. En général, on arrive à flairer qu'il y a un vol collectif quand ils font un peu comme un jeu de cette famille dans la ville et qu'ils raflent spécifiquement une population. Donc, par exemple, quand on se rend compte que, on dirait qu'il y a beaucoup de Congolais qui arrivent dans les centres fermés, ça veut dire que peut-être ils font un petit tas de Congolais pour remplir un avion. Ouais. Enfin, ce genre de choses. Mais je pense qu'on va arriver bientôt vers la fin de l'émission, donc je vais pas trop.
Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver ces informations? Est-ce qu'on peut vous suivre éventuellement ou vous rejoindre?
Toutes les informations sont sur le site gettingthevoiceout.org et aussi sur la page Facebook du collectif CRER, CRER qui s'écrit comme le verbe créer. Et donc par ailleurs, si vous avez des questions et que vous voulez nous écrire, il y a donc une adresse mail qui est reprise sur le site, mais que je peux dire aussi ici. C'est donc gettingthevoiceout@riseup.net. Et bien sûr, il y a aussi un numéro de téléphone qui se retrouve sur le site, parce que Getting the Voice Out, c'est avant tout un téléphone dont le numéro circule dans les centres. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup Céline. On notera tout ça sur le site et l'émission qu'on mettra en podcast. Et alors, avant de terminer l'émission, effectivement, il reste plus beaucoup de temps et de passer, comme à la fin des portes ouvertes du DK à Fred Nefché, on passe à Mathieu Biétlot. Salut Mathieu.
Salut Célestin, salut Saïd.
Donc voilà, Mathieu est un acteur étant présent. Et est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif de l'agenda des événements à venir au DK?
Ben, c'est justement le mauvais moment pour le faire.
Ah bon?
Parce que nous sommes en plein réunion de programmation. Donc là, on a vraiment lancé le lieu, on a fait l'inauguration et on accueille déjà des activités par-ci, par-là, mais qui sont surtout des activités accueillies par des partenaires, des camarades, organisées par des partenaires, des camarades, etc. Nous, notre propre agenda pour le moment qu'il faut absolument diffuser, c'est que à partir depuis la semaine dernière, nous sommes ouverts de manière permanente les jeudis, vendredis et lundis de 17h à 22h. On est ouvert comme un espace de rencontre, buvette, boutique de lutte, etc. Vous en avez parlé, j'imagine. Et on essaye de... Et du coup, ces soirs d'ouverture sont aussi ouverts à des moments de discussion, de rencontre sur ce qui se passe au moment même. Donc, on ne programme pas tellement à l'avance. On peut déjà dire que le 11 novembre, c'est un lundi, on accueillera Emmanuel Doquès qui écrit Voyage en Misarchie, qui est un des auteurs avec qui on est en discussion et qui est quelque part un peu un acteur des temps présents à Paris. Et alors là, on est justement en pleine réunion parce qu'on va préparer un cycle sur la question de la finance. Tout le monde déteste l'argent, mais comment financer nos projets et financer le pays? On va organiser un cycle sur la question du commun, puisque c'est ce qui inspire ce lieu. On va faire des conférences, formations sur comment vraiment penser un commun, puisque nous voulons penser ce lieu comme un commun. Mais là, il n'y a pas encore de date, on est en train d'en discuter ce soir. Et je rappelle aussi qu'on va mettre au travail, mais là ce sera en journée, donc je ne sais pas si ça s'adresse à tout le monde, la question qui a motivé un peu l'ouverture de ce lieu et les premiers partenariats, c'est comment la question syndicale, donc avec les syndicats, comment la question syndicale peut rencontrer la question climatique et la question migratoire. Ça nous semble essentiel pour aujourd'hui et pour demain.
Parce que tout est lié. Merci Mathieu. Merci Saïd, merci Céline, merci Tom. Et donc on va passer à la fermeture des portes ouvertes du DK le 13 décembre, qui a été clôturé par Fred Nefché. Vas-y Saïd, tu veux rajouter quelque chose?
Pour qu'on n'oublie pas, bien sûr, l'adresse de DK, c'est 70B, rue Danemark, pas loin de Place Bethléem, pas loin de la gare de Midi. Et toujours, jusqu'à le 22 novembre, l'expo de notre amie Céline, où l'expo de Getting the Voice sera toujours dans les locaux. Si vous voulez faire un tour, boire un verre, échanger, et voilà. Merci
lundi,
beaucoup.
Lundi, jeudi, vendredi de 17 à 22 heures.
Est-ce qu'il y a encore le temps de faire un petit agenda des luttes pour le reste de la semaine?
Oui, vas-y.
Parce que sinon, on va s'ennuyer tout le week-end si on ne fait pas des petites manifs. Non, il y a plusieurs rassemblements d'ici la fin de la semaine qui sembleraient peut-être importants sur la question des violences policières et sur les centres fermés. Il y a jeudi 24 un rassemblement prévu à 19h30 à la maison communale de Saint-Gilles par plusieurs collectifs, dont l'initiative de femmes du collectif Madré, qui sont les femmes d'enfants qui ont été victimes de violences policières. Et donc, ils vont faire une interpellation ce jeudi soir-là. Donc, ils appellent à se rassembler pour les soutenir. Le lendemain, le 25, non, il n'y a rien, je crois. Le 26, il y a une marche organisée à Jumet contre le nouveau centre fermé qui est prévu d'y être. Il y a un rendez-vous à la station Madeleine près de la gare de Jumet à 14h. Le lendemain, le 27, il y a un rassemblement place de Brocaire de 14h à 18h en hommage au jeune Mehdi. Voilà, c'est une marche blanche pour accompagner la famille de ce jeune qui a été renversé par une voiture de flic l'année dernière. Voilà, je crois que c'est trois dates importantes pour cette semaine.
Très bien.
Merci beaucoup, Céline. Merci à tous et bonne soirée.